histoire particulière. C'est l'été et je vous emmène en voyage. Pendant une heure, chaque dimanche, de 16h à 17h, vous allez découvrir un lieu et son histoire. C'est la collection Été 2019 d'une histoire particulière. C'est maintenant. Quatrième semaine, quatrième étape. Après Londres et le quartier tristement célèbre de Whitechapel, nous retournons sur le continent. Un petit détour par Portsmouth pour prendre le bateau qui nous fera débarquer à Ouistreham, tout à côté de la plage de Sword Beach, l'une des cinq plages utilisées lors du débarquement du 6 juin 1944 au cours de la bataille de Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale. Suivent les plages de Juneau, Gold, Omaha et Utah. Arrêtons-nous sur Gold Beach. Ce secteur, situé au centre de la zone de débarquement, fut dévolu à la 50e Northern Brine Division du général Graham. À Oromanche, un grand port artificiel verra le jour. On peut encore y voir les vestiges de ce port. Le défi est lancé au début de l'année 1942 par Lord Mountbatten et Sir Winston Churchill. Construire de toutes pièces, en moins de 3 semaines, 2 ports en eau profonde face aux villages d'Aromanche et de Saint-Laurent-sur-Mer, d'une capacité équivalente à celle du port de Douvres, capable d'assurer l'approvisionnement matériel et en renfort des contingents alliés fraîchement débarqués sur le continent, en attendant que les ports maritimes continentaux soient conquis. En effet, il était important que les troupes alliées bénéficient de l'ensemble de leurs moyens de combat pour faire face à une contre-attaque allemande. En 100 jours, 4 millions de tonnes de matériel et 500 000 véhicules débarquent de Port Winston. 400 000 soldats, dont le lieutenant James Gerald Marshall Cornwall de la 4e Canadian Guards. Il faut absolument que l'on raconte son histoire. Alain Lefkovitch et Julie Bérissy le font tout de suite.
Le 30 juillet 1944, après un arrêt forcé de plusieurs semaines, le 8e corps britannique attaqua les fortes positions allemandes au sud et à l'est de Caumont-l'Éventé. La 15e division écossaise que précédait le 4e bataillon de chars, des grenadiers Guards, équipés de tanks Churchill, lança l'attaque. Le lieutenant James Marshall Cornwall, avec le char de tête de son unité, pénétra dans le bois de Mondan et l'occupa, effectuant ainsi la première percée sur ce front. Il fut près de cet endroit mortellement frappé d'une balle ennemie. Il a donné sa vie pour son pays et pour la libération de la France.
74 ans de solitude, le good lieutenant de Cahagnes, une histoire particulière d'Alain Lefkovitch et de Julie Bérissy.
Monsieur le maire, monsieur les adjoints, monsieur le président des anciens combattants, chers amis, dans notre commune de Cahagnes, il y a des dates que je ne voudrais manquer à aucun prix. Et parmi ces dates, il y en a une qui est peut-être parmi les plus importantes. Ce dernier dimanche de juillet, pour les anciens, c'est toujours un jour rempli d'émotions. Depuis la fin de la guerre, en effet, c'est devant Dieu que le souvenir d'un homme, d'un militaire anglais, nous rassemble. Il s'agit donc, bien sûr, du lieutenant James Marshall Cornwall. À ce lieutenant anglais, nous associerons le souvenir...
Comme chaque année, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, Cahagnes, petite bourgade du Calvados de près de 1500 habitants, célèbre ses morts tombés pour la France, comme on dit laconiquement officiellement. 30 juillet 2018, la foule des grandes occasions occupe les bancs de l'église du village, car ce jour-là, c'est un mort bien particulier qui est à l'honneur, sanctifié par le père Potry, curé de la paroisse et ancien aumônier militaire. Il faut dire qu'il y a 74 ans, le village, situé le long de la départementale 54, à 40 km sud-ouest de Caen, fut le théâtre d'une histoire singulière. 30 juillet 44, à peine débarqué sur la plage normande de Gold, près d'Aromanche, le lieutenant britannique James Gerald Marshall Cornwall avance en tête de son unité de chars dans le bocage normand au premier jour de l'opération Bluecoat lancée par le général Montgomery. À 22 ans, il est déjà la fierté de son illustre père, le général Marshall Cornwall, et ne déroge pas à la tradition familiale, détermination, honneur et courage. Des valeurs qui ne suffiront pas à sauver la vie du jeune officier, fauché par une balle allemande, unique victime de cette journée de combat, tout juste 24 heures avant la libération du village. Depuis, il repose ici, lieu de son dernier combat, seul dans ce qu'il est convenu d'appeler le plus petit cimetière du monde.
Dans nos prières, nous penserons également à tous ces soldats morts sur nos terres. Un descendant de la famille du lieutenant me disait que le sacrifice de ce militaire était vraiment une chose extraordinaire. Voyez-vous, il n'a jamais revu son pays, mais sa famille a voulu qu'il reste parmi nous sur notre terre de Cahagne. Nous allons maintenant participer de notre mieux à cette Eucharistie en prenant maintenant notre chant d'entrée.
Vienne la paix sur notre terre, la paix de Dieu pour les nations. Vienne la paix sur notre frère, la paix de Dieu dans nos maisons. Nos épées deviendront charrues de laboureurs, nos lances deviendront des faux pour la moisson. Vienne la paix de Dieu.
Jour J, les alliés débarquent en France. Au cours de la plus grande opération amphibie jamais tentée, un bombardement naval prépare le terrain pour les soldats alliés qui vont prendre d'assaut les plages normandes et s'accrocher désespérément au continent européen.
Cagny était occupé, comme tous les autres villages du secteur d'ailleurs. L'armée britannique a envoyé plusieurs bataillons pour libérer Cagnes et libérer les villages des alentours.
Marcel Bonneval, maire de Cagnes.
Et au cours de la libération de Cagnes, le lieutenant Marshal Cornwall, qui était chef de char, avait pris un prisonnier allemand qui devait remettre à son unité d'appui. Et au moment d'arriver sur l'unité d'appui, il a été tué par les forces ennemies.
Au bout de la ligne, du fin fond de son Écosse natale, Sir Hugh Willoughby, neveu de feu le lieutenant James Gerald Marshall Cornwall.
My name is Hugh Willoughby and I am the son.
Je m'appelle Hugh Willoughby et je suis le fils de Lady Middleton, qui était la sœur de James Marshall Cornwall.
He joined the army in
Je crois qu'il est entré dans l'armée en 1941 et a rejoint les rangs des Grenadier Guards. Et il était dans un bataillon de chars, le 4e bataillon de Grenadier Guards. Ils se sont entraînés en Angleterre jusqu'à la campagne de Normandie. Ils ont atterri juste après le jour J avec une division aéroportée.
James
Marshall Cornwall était un jeune officier. Il était lieutenant et commandait trois chars Churchill, des chars britanniques. Il avait réussi à faire une avancée considérable et il est mort deux ou trois semaines après son atterrissage en Normandie.
Landung in der Normandie war nur ein Täuschungsmanöver. Die Invasion wird sich bei Calais abspielen, und zwar unter Patton.
Ce jeune lieutenant va mourir dans un char et j'ai envie de dire que c'est malheureusement relativement courant.
Olivier Viviorca, historien, spécialiste de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale.
En général dans la campagne de Normandie et en particulier dans cette opération. Alors, on a un peu l'image, nous, avec le soldat Ryan, d'un débarquement absolument apocalyptique. Et il est vrai que les premières vagues, la première vague de débarquement, a été extrêmement meurtrière. Mais en gros, quand on regarde le pourcentage des pertes, c'est pas un pourcentage énorme. Le jour J, le 6 juin 1944, les pertes sont relativement légères, autour de 10 000 hommes. Ce qui est relativement peu pour une opération de cette ambition. En revanche, la suite des opérations, donc ce qu'on appelle la bataille de Normandie, a été une bataille beaucoup plus meurtrière et beaucoup plus terrible. Et cette bataille de Normandie va poser aux Britanniques des problèmes absolument majeurs. Pourquoi ? Parce que le Royaume-Uni est un petit pays. Et ce petit pays n'a pas beaucoup d'habitants. Et donc, comme il n'a pas beaucoup d'habitants, il n'a pas une grande armée. L'armée britannique, c'est grosso modo 4,5 millions d'hommes contre 7-8 millions d'hommes pour l'armée rouge, contre plus de 10 millions d'hommes pour les Américains. Donc ils n'ont pas beaucoup d'hommes. Ce que font donc les Britanniques, c'est pour éviter de sacrifier leurs fantassins, qui morflent énormément pendant la campagne de Normandie, mais ils s'appuient d'abord et avant tout sur les chars. Or, les chars dans le terrain normand, eh bien, sont relativement mal adaptés, tout simplement parce que en Normandie, vous avez du bocage, c'est-à-dire cette formation géographique où on a des champs entourés de haies. Et qu'est-ce que les Allemands mettent derrière les haies? Ils mettent des snipers, ils mettent des hommes avec des bazookas. Donc les chars progressent difficilement dans le bocage et les Allemands peuvent faire des ravages. Mais d'autre part, les Britanniques ont des officiers qui aiment montrer l'exemple pour donner du mordant à leurs troupes. Et donc très souvent, ils sont en tête des opérations. Et bien évidemment, ils offrent une cible de choix aux adversaires allemands.
Il a été tué dans un endroit qui s'appelle le bois de Mondan. Un groupe d'Allemands s'était rendu. D'après ce que nous savons, il était seul et avait sorti la tête de son char pour donner des ordres aux Allemands qui s'étaient rendus. Malheureusement, un des Allemands était encore en embuscade. Il lui a tiré une balle et James est mort. Son bataillon était venu en support à une division de l'infanterie écossaise dans le cadre d'une opération qui s'appelle Blue Coat.
Oui, donc il faut peut-être se replacer dans le contexte de l'époque. Les Alliés débarquent en Normandie le 6 juin 1944 et leur idée, c'est que, au fond, le gros de l'offensive terrestre va se faire sur Caen. Parce que Caen est un nœud de communication et que Caen ouvre sur une plaine. Et la plaine est importante pour deux raisons majeures. Première raison, pour déployer les blindés, parce qu'une division blindée prend beaucoup de place, donc une plaine est tout indiquée. Et d'autre part, parce que les aviateurs ont besoin de bases provisoires, donc sur du terrain plat. Or, cette prise de Caen, qui est logiquement confiée à Montgomery, qui est le numéro 2 dans l'organigramme du débarquement, qui est en gros le patron des groupes terrestres, eh bien, cette prise de Caen n'arrive pas. Montgomery a beau s'échiner, il n'arrive pas à prendre Caen.
Je savais que Montgomery était incapable de prendre Caen à la date prévue. Et je l'avais dit, il ne pourra pas s'en sortir. Il est coincé dans le bocage normand.
En général, votre mission en Europe est considérée comme prioritaire. Le général Bradley ne vous aurait pas fait venir s'il n'avait pas une petite idée.
Et donc, du coup, les Américains, qui commencent un peu à être énervés par Montgomery, qui n'est pas très bon sur le terrain et qui, en plus, est super arrogant, décident de changer leur fusil d'épaule et d'attaquer à un endroit qui n'était pas prévu, à savoir dans le Cotentin. Le 25 juillet, une opération intitulée Cobra va donc se déclencher sur, quand on regarde la carte, sur le secteur ouest, qui est donc un secteur américain. Et pour favoriser cette offensive, les Britanniques de la 2e armée lancent une offensive complémentaire qui est l'offensive Blue Coat, qui vise pour aller vite à sécuriser le flanc est de l'armée américaine à qui incombe, je le répète, l'essentiel de la percée. Voilà l'origine de l'opération Blue Coat qui démarre donc le 30 juillet 1944. L'idée donc, c'est qu'en attaquant sur le flanc de l'offensive américaine, on va attirer des forces allemandes et que ces forces allemandes qui combattront contre les Britanniques ne combattront pas contre les Américains.
Je ne sais pas pourquoi on se traîne comme des limaces dans ce pays. Depuis qu'on est arrivé ici, on n'avance pas. On ne peut tout de même pas rester planté là pendant un siècle. Je voudrais utiliser cette route de Saint-Lô à Perrier. Là. Montgomery empêchera les Allemands de sortir de Caen. On va pilonner un couloir de 6 km de large sous un bombardement intensif. Et après, nous ferons descendre 7 divisions. Et la 3e armée pourra effectuer de cette façon un mouvement tournant à travers toute la France.
Dans l'armée britannique, une très grande tradition aristocratique. Cette tradition aristocratique, elle a été très vivante encore au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. En fait, très souvent, lorsqu'on est officier, on est officier parce qu'on vient d'une bonne famille et qu'on a fait de bonnes études. À l'Académie militaire de Sandhurst, qui est le Saint-Cyr britannique, vous avez 84% des officiers qui, en 1939, viennent des public schools, c'est-à-dire d'écoles, comme leur nom ne l'indique pas, qui sont privées, sélectives et très chères. Donc on a cette tradition aristocratique à telle enseigne que lorsque le corps des officiers va s'ouvrir Tout simplement parce qu'il va falloir plus d'officiers pour encadrer plus de soldats. Eh bien, au départ, le recrutement se fait par des questions. Chassez-vous ? Quel type de gibier chassez-vous ?
D'après ce que j'ai entendu, il était extrêmement respecté. Il était de nature très généreuse et bienveillante. À sa mort, de nombreux amis sont venus lui rendre un dernier hommage. Moi, je suis né 7 ans après sa mort, et par conséquent, je ne l'ai pas connu. Mais ce que je peux dire, c'est que tous ceux qui l'ont connu en gardent un très bon souvenir.
Son père, le général Marshall Cornwall, a décidé qu'il serait inhumé à l'endroit où il était tombé. Donc il a fait quelques tractations avec le propriétaire du terrain de l'époque, qui était d'accord pour lui vendre la petite parcelle où le lieutenant est enterré aujourd'hui. La famille de Saint-Louvent, c'est une famille qui était... Monsieur de Saint-Louvent était maire de Beuvron-en-Auge et il était propriétaire d'une ferme sur Cagne. La ferme qui est juste en face du monument d'ailleurs. Et c'est lui qui a vendu cette petite parcelle où est inhumé le lieutenant Marshall Cornwall.
Département du Calvados, mairie de Cahagne. Monsieur le superintendant, en réponse à votre lettre du 4 mai 1953, j'ai l'honneur de vous faire savoir que, par acte passé devant Maître Le Boucher, notaire à Cahagne, le 6 décembre 1945, Monsieur Georges-Marie-Louis Formet de Saint-Louvent, propriétaire à Cahagne, et Madame Amélie-Marie-Charlotte Fleury, son épouse, ont vendu à M. James Marshall Cornwall, demeurant à Londres, une parcelle de terre, sise à Mondan, commune de Cahagne, nommée le Petit Champ, cadastrée sous le numéro 429, pour une contenance de 9 ars 90 centiards. Dans cette parcelle repose le corps de M. James Gerald Marshall Cornwall, du 4e bataillon Grenadier Guards, tombé au champ d'honneur dans le bois de Mondan le 30 juillet 1944.
Oui, effectivement, on enterre les soldats britanniques à l'endroit où ils sont tombés. Et donc tout ce qui est la politique française, qui est une politique de rapatriement des corps, aux frais de l'État, il faut le souligner, eh bien, n'est pas nécessairement utilisé par les Britanniques dans leur gestion des morts, ce qui explique qu'il y ait autant de cimetières militaires britanniques, mais également américains, en France ou dans l'Europe qui a eu à subir la Seconde Guerre mondiale. Vous avez toute une gestion des morts qui est compliquée. Les morts posent un problème, je dirais, sanitaire. Il faut enterrer relativement vite, éviter que les épidémies se propagent. Alors effectivement, le temps a été assez pourri en Normandie, pendant la campagne de Normandie, mais ensuite le beau temps revient et les cadavres en putréfaction sont extrêmement nombreux. Donc on essaye d'enterrer assez rapidement, en donnant d'ailleurs très souvent des sépultures provisoires qui se transformeront ensuite en sépultures définitives, sachant que ce sont en règle générale les pays eux-mêmes qui organisent ce culte des morts, qui organisent eux-mêmes ces cérémonies, gèrent les cimetières, puisque les cimetières, en règle générale, bénéficient d'une forme d'extraterritorialité.
Donc ensuite, un mausolée a été construit, et le général Marshall Cornwall a fait don de l'ensemble à la commune de Cahagne, avec une somme de 10 000 francs à l'époque, pour l'entretien perpétuel de cet emplacement.
Quand, le 6 mai 1946, préfecture du Calvados, 2e division, 3e bureau. Le préfet du Calvados à monsieur le maire de Cahagne. J'ai l'honneur de vous retourner, revêtu de mon visa, la délibération du 18 avril 1946, par laquelle le conseil municipal de Cahagne a accepté définitivement la donation qui lui a été faite à charge d'entretien à perpétuité de la sépulture de son fils par le Sir James Marshall Cornwall, général en retraite de l'armée britannique demeurant à Londres. Cette délibération étant exécutoire par elle-même,
dans cette terre de Normandie, nous avons énormément, vous le savez, de cimetières et nous avons à cœur de nous recueillir devant ses morts. Nous allons nous rendre maintenant donc au Mondan, comme c'est la tradition, sur le lieu de cette commémoration. Et nous allons nous rendre donc en procession. Après ce chant, vienne, vienne la colombe. Alors, merci à tous.
Vienne, vienne la colombe et son rameau d'olivier. Dans nos cœurs et dans ce monde où la paix reste à gagner.
On est toujours à Cagnes, on est à 200 mètres de la limite de Caumont-l'Éventé. Cette bataille, elle a eu lieu ici même, et le lieutenant Marshall Cornwall, il est tombé là où il est inhumé. Donc c'est cette petite parcelle de terre qui a été vendue par la famille Saint-Louvent, et le bois qui est derrière, qui a été donné par la famille du Jardin. Alors ici, c'est bien la tombe du lieutenant James Gerald Marshall Cornwall. Vous avez le mémorial avec la tombe. Vous avez les chaînes qui représentent les cimetières anglais, qui sont le signe distinctif des cimetières anglais. La forme avec des petites pointes que vous voyez entre deux et une couleur vert forêt, vert très foncé. Et il y a énormément de touristes anglais qui s'arrêtent ici parce qu'ils savent que cette tombe-là existe. Et il y a énormément de monde qui s'arrête, même des Français d'ailleurs, même des touristes.
Et donc il y a le drapeau britannique, le drapeau français, le drapeau européen.
Le drapeau européen, oui, oui, les trois drapeaux. Et c'est alors ce site que vous voyez là est entretenu toute l'année.
Par la municipalité.
Par la municipalité. C'est un engagement que nous avons, un engagement moral à partir du moment où on l'a promis au général.
Êtes-vous prêt, monsieur le maire? Vous êtes prêt?
Mesdames, Messieurs, merci à vous tous de votre fidélité à notre pèlerinage annuel sur la tombe du lieutenant Marshall Cornwall. C'est votre contribution à notre devoir de mémoire et l'anniversaire de la libération de notre village. Cette année, la famille du lieutenant n'a pas pu se joindre à nous, mais elle m'a indiqué qu'elle serait présente en 2019. Nous aurons une pensée pour elle. Le 30 juillet 1944, Cagnes était libéré, même s'il restait ça et là des poches de résistance. Pour les habitants, le débarquement était un immense espoir de retrouver leur liberté. Les combats faisaient rage dans notre secteur et l'armée britannique, représentée par plusieurs régiments, luttait pour nous libérer de l'envahisseur. Ce 30 juillet, le lieutenant Marshall Cornwall, jeune officier du 4e bataillon de chars, tombait sous les balles ennemies en effectuant une percée avec son char de tête dans ce bois de Mondan. Sa famille a souhaité qu'il soit inhumé à l'endroit où il avait perdu la vie. Notre reconnaissance ira à tous ceux qui sont morts pour la patrie et la liberté, à ceux des combats de 1940, à ceux des combats de la France libre, à ceux de la résistance comme à ceux des camps de déportation et de concentration, à ceux qui sont morts sur le front, dans les prisons, aux torturés et aux fusillés, à ceux qui ont souffert pour que notre pays se redresse, retrouve son indépendance et sa dignité. À tous, honneur et respect au nom de la France éternelle. Sachons au nom de la force de mémoire bâtir un avenir digne de notre histoire et des luttes qui ont redonné sa fierté à notre nation. Merci.
Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé.
vous êtes tous invités au pot de l'amitié à la salle Edine. A tout à l'heure.
Thérèse, on prend du cassis.
Alors Jean-Claude Dujardin, attendez, je vais m'asseoir à côté de vous. Alors dites-moi Jean-Claude, ce champ où se situe aujourd'hui la sépulture du jeune lieutenant, ça appartenait à votre famille ?
Le petit coin d'herbe, non. Ça appartenait à la famille de Louvain. Le bois, le petit bois qui est en bois aujourd'hui, ça appartenait à mes parents. Et alors mes parents, quand ils ont décidé ça, ils ont dit, il a donné sa vie pour la France, on va quand même pas lui vendre le bois. Quoi. Donc mes parents ont fait don du petit coin de bois. Quoi. L'histoire est simple, c'est tout simplement ça. Quoi. Puis moi j'étais jeune à l'époque, je me souviens très bien, les Anglais étaient sur la butte à Caumont, et nous on était tout autour, j'habitais à 1,5 km là, du bois là, à peu près. Là. J'étais pendant un mois sous le feu des Anglais et des Allemands, quoi. Mais nous on était en ligne allemande. On a été expulsés au début de juillet. Tous les civils ont fallu quitter la zone militarisée. Et on était même réfugiés les derniers jours dans le château d'Aubigny.
Et alors, vous êtes fier que vos parents aient donné ce bois à cette famille ?
Ben, oui, j'en suis content. On en est heureux, quoi. Même mes enfants, mes petits-enfants, tout le monde est fier. C'est naturel, quoi. On n'a pas en tiré une fierté, quoi. On est heureux, c'est tout.
Et c'est votre fille, la dame, là-bas ?
Oui, c'est ma fille, oui. C'est une de mes filles. Hein. Et puis j'en ai une autre qui est, je ne sais pas où, là.
Donc c'est les parents de votre père, donc vos arrière-grands-parents, je crois, ont donné ce petit bois.
Oui, c'était un bel acte. Et je pense que, mon grand-père était quelqu'un de très généreux. Et c'était quelque chose qui était important. Il y avait une certaine fierté. Et je pense aussi que lui, c'était sa façon de... Bah, il n'avait pas le choix, il était prisonnier. Et ça a été un moyen, sans doute, pour lui de dire, voilà, j'étais pas là, mais je suis là quand même. Et ces gens-là, moi, j'ai été me battre ailleurs, j'étais prisonnier, il s'en est bien sorti. Et malheureusement, voilà, parce que, comme moi, j'ai vu encore tout à l'heure, 22 ans, mort pour la France, pour un autre pays, voilà, c'est quand même dur. Et moi, j'ai le souvenir des Anglais. Quand j'étais enfant, les Anglais d'Orsosken, c'était une fête. Alors moi, j'étais petite, mais c'était une fête. Et même à Paris, j'ai un souvenir, j'ai une boîte à thé qui avait été offerte à mes grands-parents, que j'ai voulu garder en souvenir un petit peu de ça. Et quand papa nous a demandé de venir, je dis oui, c'est une bonne idée. Voilà.
Mon grand-père et mon oncle, ils ont été témoins de l'enterrement, si je puis dire, ouais, c'est ça. L'enterrement, et je crois que ça a été très très émouvant parce que le père, le général, donc il a enterré son fils, il était enveloppé dans une toile de parachute et il est descendu dans la tombe et il a vraiment reposé au fond du trou, si je puis dire. Et je me souviens, alors moi par contre j'ai été témoin de réception des Anglais parce que mon grand-père a été maire pendant une certaine époque. Et donc nous, enfants, on allait aux réceptions, quoi, et on accueillait le général, qui était d'ailleurs très très gentil. C'était quelqu'un de grand, quoi, et puis de très anglais, très courtois, très... ouais. Puis c'est vrai que
il y avait une notion de respect, moi je me souviens, ma grand-mère, quand les Anglais arrivaient, c'était quand même quelque chose d'exceptionnel, et de respect. Ouais.
Seule chose que je regrette, c'est qu'au niveau, parce qu'ils ont baptisé les rues de Cahagnes, ils n'ont pas mis boulevard des Anglais, par exemple, en mémoire, parce qu'il y a quand même eu beaucoup d'Anglais de tués. Hein.
Puis il y avait le côté aussi, les Anglais, ils venaient de loin, on ne savait pas trop d'où, ils ne parlaient pas la même langue que nous. C'était vraiment c'était un événement. C'est sans doute les premières fois où j'ai entendu une langue étrangère, d'ailleurs. Ici, en Normandie, c'était pas à l'époque, il y a 50 ans, il y a quand même beaucoup moins d'échanges et tout ça. Et oui, ça a été sans doute pour moi la première relation avec la langue étrangère.
C'est assez étonnant parce que c'est le plus petit cimetière du monde.
Alors, ça, je ne le savais pas. Je ne savais pas, je l'ai appris hier soir quand papa nous a demandé, nous a dit bon, il y a un truc demain à la tombe de l'anglais, puisqu'on appelle ça la tombe de l'anglais. Et donc il nous a dit c'est le petit cimetière. Alors, comment ça se fait qu'une tombe, c'est un cimetière? Et là, le monsieur le maire vient de m'expliquer ce que c'était qu'un cimetière, effectivement, à partir du moment où il est cadré, bordé, que c'est pas une tombe au milieu de nulle part, il y a un environnement, c'est un cimetière.
Merci à Hugh Willoughby, à Olivier Viviorca, Marcel Bonneval, Jean-Claude Dujardin, Claire Dujardin, Georges Lévesque, au père Potry, aux habitants de Cahagne et à l'association locale des anciens combattants. 74 ans de solitude, le good lieutenant de Cahagne, réalisation Julie Bérécy, mixage Philippe Thibault, coordination Christine Bernard, une histoire particulière d'Alain Lefkovitch. "74 ans de solitude, la grande famille de la Commonwealth War Grave Commission. Une histoire particulière d'Alain Lefkovitch et Julie Bérécy.
Le monde entier commémore et honore encore le sacrifice des soldats victimes de la guerre. Les deux guerres mondiales du XXe siècle ont fait plus d'1 750 000 victimes parmi les soldats des pays de l'Empire britannique, aujourd'hui le Commonwealth, venus faire don de leur vie sur tous les théâtres de guerre. Leurs tombes sont entretenues par la Commission des sépultures de guerre du Commonwealth, Commonwealth War Graves Commission, qui répertorie la dernière demeure de tous ces soldats, femmes et hommes du Commonwealth, fauchés par les deux guerres mondiales, et en perpétue les tombes et le souvenir. Pour les soldats sans sépulture connue, la Commission a construit des cénotaphes aussi surveillés que le plus petit cimetière.
Présente dans 150 pays, la commission gère 23 000 cimetières, dont 4 268 rien que pour l'Europe du Nord, soit quelques 700 000 tombes. Des nécropoles dessinées selon les critères du peintre William Kent, inventeur au XVIIIe siècle du jardin anglais, et pour qui la nature doit être exploitée ou accentuée plutôt que corrigée, comme le font les Français. Steve Arnold perpétue une tradition familiale sur les traces de son grand-père et de ses oncles. Il est l'un des horticulteurs de la CWGC, en charge de la surveillance de ces jardins aux normes très particulières.
Voilà, le cimetière militaire de Écouave. Vous voyez, il y a plus ou moins la moitié qui sont français, des croix. C'est des militaires français et les autres sont les nôtres là-bas. Il y a toujours un registre dans le cimetière où vous trouvez tous les noms de ceux qui sont enterrés là. Si quelqu'un de la famille vient, ils peuvent chercher plot VB14. Donc devant, il y a un petit plan. Et là, ils peuvent trouver tout de suite où est la personne de leur famille. Et après, il y a le visitor book. Donc si quelqu'un vient, ils peuvent laisser un petit mot. Ils mettent des petits mots pour la plupart bien. Alors, trop de jeunes hommes sont morts dans cette région. Avec la comité départemental de randonnée pédestre du Pas-de-Calais, des marcheurs se souviennent en espérant que la paix soit une priorité de notre société européenne. Donc ça c'est spécifique, quasiment tous les cimetières, pas tous, pour la plupart on a ça.
Ça ce sont les stèles anglaises, les stèles françaises c'est des croix, pourquoi c'est pas des croix chez vous?
Je n'ai aucune idée, ils ont décidé que c'était comme ça, pourquoi je ne sais pas. Bah, la forme c'est plutôt rectangulaire en hauteur mais avec un léger arrondi sur le dessus. Et nos ancêtres, je veux dire le CWGC, nous on a commencé en 17. Et eux, ils faisaient des croix en bois avec le nom. Après, ça a passé sur des croix en béton. Et pendant des années 20, 1920, 30, quand on a créé les cimetières, on a mis ces stèles-là. Et ça, ici, c'est Portland. La plupart de nos stèles sont une pierre qui s'appelle Portland.
Et c'est fabriqué où?
Ben, les stèles viennent de l'île, de Portland. Et nous, ici à Bourin, on fait les... On a des machines de gravure, donc on fait des stèles pour tout le monde. Mais ce qui est spécifique chez nous, et qui a, je pense, personne d'autre, a, c'est on a toujours l'insigne de leur régiment.
L'emblème du régiment.
Oui, ouais, c'est ce que nous appelons le cap badge, donc c'est ce qu'ils me portaient sur leur casquette. Il n'y a personne d'autre qui fait ça. Son numéro de matricule, je pense, c'est matricule. Hein. Le grade, donc son nom. le nom du régiment, la date de son décès. C'était prévu que nos cimetières, ça devait être comme un jardin anglais. Donc des plantes, ce que nous appelons herbaceous plants, c'est des plantes vivaces, des rosiers, tout ça. Il fallait qu'un visiteur d'Angleterre ou de Grande-Bretagne qui vient ici se retrouve un peu chez lui. Et ces gens, ils sont tous morts pour nous. Donc c'était la dernière chose qu'on pouvait faire pour eux, c'est de faire en quelque sorte que le lieu de leur sépulture soit bien entretenu et comme chez eux. C'est-à-dire que les jardiniers, ils ont l'habitude, depuis le départ, quand ils travaillent à la commission, d'utiliser une centaine de différentes, 150 différentes plantes. Et c'est des plantes que, depuis le temps, on connaît, ils ont le mieux survécu au temps et à notre façon de faire dans nos cimetières. Alors, on utilise toutes sortes de rosiers. Il y en a un qui a été fait spécifiquement pour nous, qui s'appelle Rembrandt. C'est un rose rouge. C'est quelque chose qui est très spécifique, que vous allez trouver dans nos rosiers dans tous les cimetières. Et viens, Laurent.
Bonjour.
Alors, Laurent Nicole, il est chef jardinier principal
ici. Bonjour. Bonjour.
Alors là, par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme... Parce que Steve nous parlait de 150 variétés de oui. plantes différentes. Oui. Ça va de où à où?
Tout est en vivace. Hein. Vous avez des plantes intermédiaires, vous avez des plantes tapissantes, vous avez des plantes qui sont un peu érigées. Voilà, il y a beaucoup de diversité, mais entre 80 et 150 variétés, à peu près. Hein. Bon, là, vous avez de la Campanula Dixon Gold. C'est une campanule qui a feuillage jaune. Ça, c'est du lamium, c'est une parenté avec un ortie. Donc celui-ci, c'est une variété blanche. Là, vous avez des lyriopes, ce sont des plantes qui font des petites... Alors, on essaye de varier les couleurs, en fait. Le principe de la plantation, c'est de pouvoir mettre des floraisons d'été et de printemps en même temps. Comme ça, la stèle est fleurie toute l'année, en fait. À côté, vous avez un phlox alpin qui, lui, fleurit au printemps. C'est une plante tapissante qui couvre le sol pour éviter la pousse de mauvaises herbes. Puis après, bon, donc cette bordure-ci sera reproduite 5 bordures plus loin. Toujours comme ça. Voilà. Après, vous avez des bordures d'arbustes pour couper un peu la monotonie du site. Ça et les rosiers nous aident beaucoup aussi. En plein été, il n'y a plus que les rosiers qui soient vraiment en fleurs, quoi, avec 4 couleurs différentes. Ici, j'ai le Remembrance qui est là-bas tout au bout. Ouais. C'est le rosier qui est comme emblème à la commission. C'est une variété qui est rouge pétant. Donc ça fait beaucoup avec le contraste avec les stèles blanches. C'est parfait. Parfait.
Il y a des règles à respecter, d'écart entre les stèles, d'écart entre les plantes.
Oui, il y a pas mal de choses après techniques au niveau des plantations, au niveau des séquences de plantation. Pour vous donner un exemple, on travaille sur, on prend 4 stèles et on met 8 plantes dessus sur 4 stèles. Et cette séquence de plantes est répétée tout le long de la bordure en fait. Il y a des plantes intermédiaires, il y a des hauteurs de fleurs qu'on doit respecter. Comme les lettrages sur les stèles, on ne peut pas mettre de plantes assez hautes. Sinon, on verrait plus le lettrage, quoi. Donc, il faut mettre plutôt des plantes tapissantes devant la stèle et à côté des choses un peu plus érigées, quoi. Voilà.
Alors là, on est en train de piétiner du gazon anglais, c'est ça?
Oui, c'est du gazon anglais, en fait. Au départ, c'est des variétés de gazon qui sont choisies, justement, en fonction des terrains, par rapport à la pousse du gazon, etc. Ou si c'est un terrain qui est drainé, pas drainé, etc. Après, tout dépend de la tonte qu'on va y faire aussi, comment on va le tondre, etc. Ouais.
Alors, c'est quoi la hauteur réglementaire?
Alors là, la hauteur réglementaire, ben ça a changé au fil des années, parce qu'on tondait plus court avant. Maintenant, on est à une hauteur de 30-35 mm qui sont tondus, donc régulièrement, c'est-à-dire environ un cycle de tonte, c'est 8-10 jours. Quoi. Bon, après, il y a la période sèche où ça pousse forcément moins. Et c'est surtout de maintenir les bordures droites le plus possible et d'empêcher justement que les mauvaises herbes aillent dans les bordures, en fait. Voilà, c'est ça le plus gros de la maintenance. Quand on travaille à la commission, on ne peut pas s'empêcher, quand on est dans les bordures, de regarder les noms. De regarder un petit peu le régiment, l'âge. Souvent, c'est l'âge qui est important. Et même les nouveaux arrivants, au début, bon, ils sont obnubilés par ça. Ils regardent, ils disent, ah, bah, il y a 20 ans, etc.
quand ils travaillent à longueur de mois dans les cimetières, ils se rendent compte que, bah oui, ce sont des tombes. Ce sont des tombes de gens qui avaient une vingtaine d'années à l'époque, quoi. Donc on en parle aussi entre nous et on se dit, bah oui, mais tous ces gars-là, ils ont fait autant de kilomètres et ils sont venus se faire tuer ici, en pleine campagne, quoi. Bah, il a rien connu, quoi, hein. À 19 ans, il s'est fait tuer en venant aider. Et ça, ça a une dimension importante à la commission.
Alors c'est triste pour ce lieutenant qui est enterré tout seul à Cahagne. C'est 74 ans qu'il est tout seul. Ouais.
Bon, c'était une décision qui a été prise par sa famille à l'époque, certainement. Je suis persuadé, si on avait posé à cette personne, si jamais en cas de son décès, s'il voulait être enterré tout seul avec ses collègues, à mon avis, il aurait choisi ses collègues. La famille ne pense pas toujours à ça, nécessairement. Mais bon, c'est... Je sais pas exactement ce qui s'est passé. Donc on va voir ça tout à l'heure. Mais c'est extrêmement rare. Et c'est, à mon avis, cette famille avait un certain pouvoir. Parce que normalement, c'était pas prévu comme ça. Normalement, tout le monde devait partir dans les cimetières. Donc pour une raison ou l'autre, lui, comme je dis, il a dû avoir une famille assez puissante au pouvoir quelque part pour pouvoir rester où il était. Mais c'est vrai qu'ils sont mieux ensemble dans le cimetière. Mais ce qui est aussi, c'est des fois des tombes qui sont... Maintenant, on n'en a pas, mais des fois au milieu d'un champ. Et on mettait un petit grillage autour, et puis ça, c'est une tombe isolée.
Bon, souvent, c'était ça pouvait être aussi un avion qui s'était écrasé dans un champ. Donc les deux occupants de l'avion étaient enterrés à part, en fait. Souvent dans la commune la plus proche. Commune la plus proche dans le cimetière communal, quoi.
Chez les Britanniques, la coutume, c'était d'enterrer le soldat tombé sur le lieu de sa dernière bataille.
Oui, quand on pouvait, oui, c'était ça. Donc, c'est pour ça qu'on a tant de cimetières, nous. Que les Américains, les Français, les Belges, tout le monde a ramené ses soldats dans les grands cimetières. Que nous, on a laissé nos soldats sur place. C'est pour ça qu'on a tant de cimetières en France. Des fois, des petits cimetières au milieu d'un champ... Et pour nous, bon, ça donne la charme au CWGC. Je veux dire, les soldats, ils sont littéralement où ils sont tombés. Et pour nous, c'est du travail.
Ah, parce que vous disiez certainement que le lieutenant qui est enterré à Cahagne venait d'une famille influente.
Peut-être, oui. Il faut qu'on regarde. On va regarder sur son dossier. Parce que c'est rare que quelqu'un a été laissé sur place. Je dis, il y en a que quelques-uns, un petit quelques-uns en France qui ont ce qu'on appelle un unsighted grave. C'est très rare. Donc, il doit y avoir une raison pour cela. On va peut-être le trouver quand on est au bureau, pourquoi on a laissé sur place.
Rares sont les occasions de franchir les murs de cette étrange bâtisse au faux air de lieu de culte de la rue Angèle Richard à Bourin dans le Pas-de-Calais, à moins de 5 km d'Arras. 435 personnes travaillent ici au quotidien, au siège logistique mondial de la commission. C'est également dans la grande morgue de l'établissement que l'officier d'exhumation étudie les restes des corps que la terre rejette avec le temps, au gré de travaux, de culture ou d'intempéries. Un espoir pour les familles qui cherchent encore et toujours certaines des 5114 victimes de l'opération Blue Coat, au cours de laquelle le lieutenant James Gérald Marshall Cornoy a perdu la vie, et des 209 672 victimes militaires alliées de la bataille de Normandie.
Notre soldat, il est de Deuxième Guerre. Ouais. Je pense pas qu'on va trouver grand-chose. Les documents sont encore secrets. Ouais. Alors, chaque cimetière, chaque site chez nous a un dossier, a déjà un numéro.
Alors ça, c'est le numéro
de Cahagne, en Slated Grave, en Calvados.
Donc c'est le numéro 16963.
Ouais. Ces numéros sont tenus partout, hein, même des copies de ce dossier en Angleterre ont le même numéro. Donc chaque cimetière a son numéro spécifique. Comme ça, c'est facile pour nous de retrouver tout. Alors, je ne sais pas quand est-ce que ça a été pris, mais vu la voiture, ça doit être les années 70.
Donc ça, c'est les photos.
Les photos de l'époque, oui. Et un petit peu l'historique de ces sites. Mais je ne vois pas la raison pour laquelle il a été laissé là-bas. Apparemment, c'est la ville qui se charge un peu de garder les lieux et qu'ils le font apparemment depuis longtemps très bien. Donc je vois que le terrain à l'époque où il est enterré a été donné à la mairie. Bon, je vois pas vraiment autre chose sur Malheureusement, j'ai pas de dossier d'origine. Alors, sur le dossier d'origine, il y aurait certainement eu les raisons et tout ça. Mais c'est entretenu par la ville, mais c'est toujours notre stèle. Mais nous, on vérifie de temps en temps, on va passer pour voir une fois tous les deux ans, normalement, on essaye de voir tous nos stèles isolées et les autres ECM. Bon, isolé, c'est extrêmement rare. Alors, j'en ai un autre en Normandie qui est comme, un peu comme celui-là, mais c'est rare, quoi.
On va peut-être retrouver la première partie du dossier, non?
Dans les archives, oui. Ça sera dans les archives. Mais je pourrais éventuellement, je peux le demander en Angleterre. Alors, attendez, je vais voir si on m'a envoyé un petit mail vite fait.
Gareth, what's his name, the archivist?
Oh, thanks. Thank you. Je vais envoyer un mail. Peut-être que dans la journée, je pourrai avoir quelques détails. C'est une cellule qui s'appelle Commemorations. En fait, c'est une équipe avec qui je travaille sur tout ce qui est retrouvailles de soldats et tout ça, mais en même temps, c'est des archivistes, c'est des gens spécialisés dans la recherche. Et je sais que si quelqu'un veut me trouver rapidement le détail, c'est eux. On va voir.
Au bout de la ligne, du fin fond de son Écosse natale, Sir Hugh Willoughby, neveu de feu le lieutenant James Gerald Marshall Cornwall.
Le père du lieutenant James Gerald Marshall Cornwall était un vieux général de l'armée britannique. Il était écossais. Sa femme, ma grand-mère, était galloise. Elle avait des origines anglaises et galloises. Il n'appartenait pas à l'aristocratie, mais disons que c'était une famille influente. Ils avaient quelques petites possessions en Écosse et au Pays de Galles. Et puis ils avaient une maison à Belgravia, au centre de Londres. Il s'était particulièrement distingué pendant la Première Guerre mondiale. Il avait des facilités à apprendre les langues et il en parlait parfaitement plusieurs, comme le français, l'allemand, le suédois, le norvégien, l'italien, le néerlandais, le turc, le mandarin. Et il se débrouillait bien en arabe et grâce à ses capacités en langue, il a été amené à travailler dans le renseignement militaire. C'est ce qu'il a fait le plus pendant la Première Guerre mondiale. Il a reçu de nombreuses médailles pour son travail, y compris la Légion d'honneur française. Je ne vais pas vous abreuver de détails, mais il a été très impliqué dans le traité de Versailles et dans la crise de Çanak en Turquie avec Kemal Atatürk. Il a rencontré sa femme en Turquie. C'était une jeune Anglaise qui conduisait une ambulance de la mission de la Croix-Rouge qui aidait les réfugiés russes blancs qui fuyaient les bolcheviks pendant la Première Guerre mondiale. Ils sont revenus en Angleterre pour se marier et ils sont repartis en Turquie pendant cette crise du Çanak. C'est donc comme ça qu'il a rencontré ma grand-mère, sa femme.
Alors l'autre partie de votre travail, c'est l'identification des corps.
Alors le CWGC, depuis la Première Guerre, sont les seuls chargés de découvrir, d'aller chercher, de récupérer les corps de soldats de Première Guerre. Où il y a des archéologues des fois qui viennent ici. Mais ils sont obligés de nous contacter. Nous, on va sur place, on travaille avec eux, ou on les laisse travailler, mais sous certains... il faut que s'ils trouvent quelqu'un, il faut qu'ils nous appellent, ou appeler la police et tout ça. Mais oui, ça, c'est l'autre partie de notre travail. Alors, c'est une partie qui, pendant des années, je ne pense pas que c'était quelque chose qui était très chargé, mais aujourd'hui, on est beaucoup plus appelé qu'avant. On y va dans la journée, qu'avant c'était peut-être pas le cas. J'entends des fois parler mes anciens collègues que ça pouvait durer quelques mois. Et on comprend bien que si je suis agriculteur et je trouve un corps et puis j'appelle à CWGC et ça dure 3 mois ou 4 mois avant que le travail est fini, je ne dirai plus rien parce que je ne peux pas s'aimer si on dit pas de travailler sur un certain endroit. Forcément, après, il ne va plus l'appeler. Qu'aujourd'hui, on va dans la journée. On fait le nécessaire pour récupérer le soldat dans la journée. Et on travaille avec les démineurs qui nous aident beaucoup, il faut dire, à sécuriser le site. Donc si on ne peut pas finir dans la journée, on utilise leur mini-pelle pour couvrir l'endroit où on travaille. Comme ça, il n'y a pas de vol. Parce que ça, c'est quelque chose qui est malheureusement très fréquent. C'est les gens qui cherchent des objets de la Première Guerre pour vendre par la suite.
Vous récupérez aussi les gens de la Seconde Guerre, non ?
Oui, mais très peu de Seconde Guerre mondiale. Hein, c'est très peu. La plupart, c'est Première Guerre. Parce qu'il en manque des milliers, des milliers. Deuxième guerre, il en manque beaucoup moins, puisque c'était des batailles étaient plus courtes, durées, et puis ils pouvaient récupérer assez rapidement les morts. Que dans la Première Guerre, s'ils partaient en No Man's Land, ils étaient morts là. Des fois, ils restaient là pendant des semaines. Des obus qui tombaient à côté, qui couvraient les soldats, et puis voilà, c'était fini.
On va peut-être aller dans une petite salle là-bas.
Alors ça, c'est pareil. Hein. Chaque fois qu'on trouve quelqu'un, on attribue un numéro. Et depuis, j'ai regardé les trouvailles depuis 1972. Et au total, on a déjà récupéré 900 et quelques personnes, soldats. Et l'équipe actuelle, moi et Paul et mes autres collègues, on est responsable de plus que 250 soldats, déjà, qu'on a récupéré depuis 15 ans.
Ça, c'est le 450e soldat ?
Ouais. Non, cas, trouvaille. Non, mais il peut y avoir 50 soldats dans 450.
Ah, là, par exemple, c'est 450, le 450e trouvaille.
Oui, 450, il y en a 4 soldats. Et après, il y a le drapeau, donc c'est des Britanniques. Ouais, mais on peut, là, ce qu'on trouve, alors, hein, par exemple, le casque. Fort déformé. Ces gens-là sont morts en 17. C'est un pot de margarine qui a été ouvert à l'époque. Et après, on peut trouver des petites choses personnelles. Par exemple, les petits tuyaux pour mettre des cigarettes. Après, il y a des petits objets, hein, ciseaux, fiables. C'est incroyable, ça reste sa dernière bouteille vide. Alors ça vient de Belgique, ça. Alors, la terre en Belgique est complètement différente qu'en France et conserve beaucoup mieux les vêtements, les objets. En France, la terre, ça on trouve jamais en France parce que c'est plus acide et tout est plus détérioré que, par exemple, en Belgique. Que là, j'ai des bottes, des vêtements qui sont parfaits, on va dire, en bon état pour 100 ans dans la terre.
Donc ça, ce sont tous les objets qu'on a trouvés au lieu où on a trouvé les ossements. Enfin,
ouais.
C'est les objets de la sépulture.
Oui, voilà. Hein, brosse à dents. Il n'y a plus les brosses, mais le brosse à dents, il est toujours là. Donc le soldat, quand il allait en guerre, il partait avec son sac à dos, avec tout dedans. C'est rare, mais on peut trouver le sac à dos encore plus ou moins intact avec ses conserves, hein, parce que j'en ai déjà trouvé avec 3-4 conserves comme ça. Mais c'est important que nous on trouve parce que vous voyez qu'on ne s'est pas pillé, on trouve plein d'objets qui peuvent montrer, qui ont possiblement donné une identité ou au moins un régiment qu'on peut enterrer chez nous. Avec son régiment et tout ça sur la stèle. Ça, c'est ce qu'on veut.
C'est-à-dire que là, avec tous les objets, donc sa brosse à dents, sa chaussette, son casque, malgré tous les petits objets qu'il y a dans cette caisse, on n'a pas réussi à identifier...
Non, je pense qu'on identifierait... on ne va jamais identifier ces gens-là. Ils sont 4. On connaît leur régiment. Mais on connaît pas on pourrait jamais dire qui ils sont. J'ai aucun indice de leur nom, malheureusement. À l'époque, les matricules, comment ça s'appelle en français, les disques pour les armées britanniques, ils étaient en carton. Alors, ils étaient vite détruits. Quand on trouve des soldats allemands, souvent on trouve le matricule. Et on, déjà sur place, on sait qui c'est. C'est juste incroyable. Nous, on rêve de ce genre de choses, mais on n'a pas. C'est dommage.
Et donc, tous ces objets, ensuite, vous en faites quoi?
Ça va être enterré avec. Et les soldats, ils sont mélangés. Les quatre, ils ne savent pas qui est qui. Et là, les quatre, ils ont dû être enterrés ensemble. Sauf que ils ont fini dans une pelle. Et ils ont été retrouvés sur les alentours, quoi.
Oui, c'est-à-dire que tous les ossements ont été mélangés.
Ouais. Donc ils vont être enterrés tous les quatre ensemble, avec les quatre stèles. Là, les quatre, il y aura quatre stèles, collées l'un à l'autre, l'une à l'autre, et avec donc on connaît les régiments. Mais peut-être, j'ai pas encore fait le rapport, mais peut-être qu'on va dire, oui, mais à cet endroit-là, ils vont peut-être trouver les détails d'un enterrement de quatre personnes. Donc je sais pas, hein, je dis, ils vont être inconnus, peut-être qu'on va trouver leur nom. Mais là, j'ai pas d'indice. Voilà. Je pense que je vais regarder, mais voilà, c'est rapide.
Alors vous avez une réponse?
Oui.
Qu'est-ce qu'elle dit cette réponse?
Alors elle dit que the site of the above grave was presented by the landowner to the family of Lieutenant Marshal Cornwall, and the family expressed their wish that their son should remain where he had originally been buried. As the casualty was buried in private ground owned by the family, we could not object, but it was pointed out that the commission could not guarantee the condition of the grave. It would appear that after the war, the family had made a financial gift to the local commune of Caen to ensure maintenance of the gravesite. Ce qu'ils faisaient, c'est que pendant l'avancement, quand ils avaient un mort, ils les enterraient sur place. Et derrière, nos prédécesseurs, hein, le CWG, puisque ça existait déjà, ils passaient derrière pour récupérer ces corps, pour les enterrer ensuite dans les cimetières. Sauf que là, apparemment, le propriétaire, il a dit qu'il voulait donner le terrain à la famille, et la famille a dit, du coup, il voulait qu'il reste enterré où ses collègues l'ont enterré après qu'il est décédé. Donc, à mon avis, il était de famille, peut-être. Déjà, des régiments, c'est un peu... Et après, il était officier. Alors, je sais pas, on peut essayer de lui trouver, hein, son Ancestry, mais... on va faire une recherche.
Alors là, on regarde sur quoi?
Ancestry. Donc, c'est un site de généalogie. OK. James... Déjà, Marshal Cornwall. Ah oui, d'accord. C'était un général, son père. World War One, donc il s'est battu en première guerre. Et c'est quasiment toutes les médailles que quelqu'un peut avoir. On voit que c'est un général d'artillerie qui s'est battu déjà en Égypte en première guerre mondiale et puis qui faisait encore partie de deuxième guerre mondiale. Donc, c'était quelqu'un assez élevé. Il a voulu, je ne sais pas pour quelle raison, il a voulu que son fils soit laissé sur place. Mais bon, il avait certainement ses raisons. Je crois que c'est étonnant pour un militaire. Mais... Surtout qu'il connaissait sûrement nos cimetières. Donc je trouve ça... Ouais. Bon, c'est un choix de famille. Il est décédé en 85, donc il a dû visiter pas mal de fois ce lieu. Parce qu'il n'est pas mort depuis tellement longtemps. Il a vécu, je vois, à l'âge de 98 ou 89. Oui. C'est rare.
Merci à Steve Arnold et aux membres de la CWGC qui nous ont accueillis, à Laurent Nicole et à Hugh Willoughby. 74 ans de solitude, la grande famille de la Commonwealth War Grave Commission. Réalisation Julie Bérécy, mixage Philippe Thibault, coordination Christine Bernard, une histoire particulière d'Alain Lefkovitch.
Une histoire particulière, c'est fini.
Dimanche prochain, à 16h, ce sera la suite de notre voyage vers un autre lieu, une autre histoire. En attendant, à 17h, nous retrouvons Étienne Klein et la conversation scientifique.